Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons inaugurer une formule que nous retrouverons une fois par mois dans Nous n'avons qu'une terre. Une émission réservée aux news du mois. Alors bien sûr, certaines vous sont familières, ont déjà fait les gros titres, mais nous allons tenter de suivre ces infos au fil des mois, en sachant que souvent une information chasse l'autre, sans que l'on sache quel est son devenir. Au menu de ce jour, les feux dévastateurs du Chili, la sécheresse en Catalogne, dans les PO et désormais dans l'Hérault, le point sur l'hydrogène à l'occasion du salon Hydrolution, la crise agricole bien sûr, et les conflits autour de l'eau. Le Chili d'abord. Le centre du Chili, vous le savez, fait face à des incendies meurtriers. Alors, des centaines de disparus, des morts, le bilan est déjà lourd et devrait encore augmenter alors que le pays est frappé de plein fouet par le phénomène El Niño avec une combinaison de vents forts et de températures extrêmes. Depuis vendredi 2 février, la région côtière de Valparaiso, dans le centre du Chili, est frappée par des incendies de forêt consécutifs aux fortes chaleurs entraînées par le phénomène El Niño, comme on l'a dit. La catastrophe a d'ores et déjà tué, dont seulement une vingtaine de personnes mortes ont pu être identifiées jusque-là. Et le bilan va probablement fortement s'alourdir, préviennent les autorités, qui déplorent la plus grosse catastrophe depuis le séisme de magnitude 8.8 qui a été suivi d'un tsunami et qui avait fait plus de 500 morts en 2010. Pour l'instant, ce sont plus de 43 000 hectares qui sont partis en fumée, détruisant des habitations à toute vitesse. Des centaines de personnes sont portées disparues, 3 à 6 000 maisons ont été endommagées ou détruites, estiment les autorités locales. Le président a déclaré 2 jours de deuil national et une quarantaine de foyers d'incendie sont toujours actifs, mobilisant près de 3 000 pompiers, militaires et volontaires. Et si les températures doivent redescendre, elles menacent désormais l'Argentine, le Paraguay, la Colombie et le Brésil. Le feu a atteint des zones densément peuplées, des familles y vivaient dans des habitations peu résistantes en bois et parfois sur des terrains qui avaient même été prévus pour servir de coupe-feu. Il faudra accentuer la prévention, car les alarmes ont sans doute été déclenchées trop tard. La Catalogne est victime d'une sécheresse terrible et revit des heures dramatiques. Alors que des records de température avaient été dépassés en Espagne la semaine dernière, des 30 degrés en plein janvier à certains endroits du pays, Barcelone a été contrainte de passer en état d'urgence. Concrètement, la décision se traduira par des restrictions pour l'agriculture, une réduction de 80% de la consommation d'eau dans le secteur, contre 40% jusqu'à présent, c'est énorme, et pour l'industrie, à hauteur de 25%. La Catalogne vient de déclarer l'état d'urgence dans 202 communes, principalement autour de Barcelone, en raison de la sécheresse historique qui touche le nord de l'Espagne. L'agriculture et l'industrie sont donc touchées, mais sans doute aussi le secteur touristique. Rappelons que la région espagnole est la plus visitée du pays, Elle a accueilli 21,2 millions de touristes en 2023, sur 85 millions au total dans le pays. Elle compte un important parc hôtelier. Question tourisme, il faudra s'attendre aussi à voir les fontaines en berne. Il est illégal de les remplir. Le gazon jauni, impossible d'arroser. Les patinoires ou les loisirs incluant les jets d'eau fermés. Les autorités régionales n'ont d'ailleurs pas exclu ces dernières semaines de ravitailler Barcelone en eau avec des bateaux-citernes. Quant à la plage, elle sera bien ouverte, mais il ne faut pas compter sur les douches pour enlever sable ou sel. Elles seront déconnectées toute la durée de l'état d'urgence. Et dans les PO, plus que jamais la sécheresse frappe. Mais on ne sait pas précisément quelle est la ressource en eau encore disponible après plus de 2 ans de sécheresse. Sollicité, la préfecture ne répond pas aux questions du journal Libération. La sécheresse perdure dans ce département, même en plein hiver, époque à laquelle les stocks se rechargent d'habitude. Comment alléger davantage la pression sur les ressources à l'avenir ? Faut-il étendre les restrictions qui pèsent au moins jusqu'en février sur les habitants, les industriels ou les agriculteurs à la production de la neige artificielle sur les hauteurs pyrénéennes, pardon. Et les 7 stations de ski des Pyrénées-Orientales, toutes équipées de canons à neige, ne devraient-elles pas être concernées par ces mesures ? Pour l'instant, pas de réponse. Et pourtant, à l'issue du comité de politique publique sur l'eau, le 30 janvier 2024, le secrétaire général de la préfecture, Johan Marcon, a présenté un plan d'action pour mieux gérer la sécheresse cette année, car la situation ne semble pas du tout en voie de s'arranger. Sans surprise, il y aura donc prolongation des restrictions déjà en cours en matière d'usage de l'eau. Mais la préfecture compte avancer sur les retenues de stockage et s'engage à inscrire des dossiers en moins de 6 mois pour concerner les retenues d'au moins de 60 000 mètres cubes. On n'en a donc pas terminé avec les conflits d'usage. Le travail mené avec la Chambre d'agriculture et le syndicat des nappes depuis 2018 va entrer en phase de concrétisation afin de doter les forages agricoles qui ne sont pas encore régularisés de compteurs, d'une autorisation et surtout d'une démarche de gestion collective. L'État compte également miser sur la recharge artificielle des nappes. Dans ce domaine, l'objectif est d'établir un protocole pour stocker dans les nappes souterraines l'eau issue des pluies éventuelles, des barrages et de la fonte des neiges. En fait, on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand-chose. Et c'est pour ça que la création d'ici l'été 2024 d'un observatoire de l'eau, destiné à avoir une connaissance plus fine de l'état de la ressource, permettra d'orienter les décisions également dans les tuyaux. Il est souvent difficile de bâtir des décisions publiques sur des constats qui peuvent être contestés par endroits. Et pour l'instant, il n'y a pas de visibilité sur tous les prélèvements, pas de structure qui centralise les informations sur la consommation et l'état de la ressource. Et l'idée serait de faire remonter toutes les données, de savoir précisément sur chaque secteur combien on peut encore prélever afin de pouvoir prendre des décisions incontestables sur leur fondement. L'hydrogène. Une 40aine de pays investissent massivement dans l'hydrogène et bouleversent la donne internationale. Si la France a presque gagné son pari de devenir un acteur industriel, elle doit néanmoins revoir sa stratégie. Et le Salon Évolution de Paris a fait le point sur les forces et les faiblesses de l'approche française. Car le développement de l'hydrogène sera forcément lié à celui de ses usages. Et seul ce type de salon est capable d'assurer la transversalité des offres. Par exemple, les trains régionaux à l'hydrogène risquent de remplacer les rames de TER au diesel. Donc, chaque module de transport va ainsi voir son remplaçant naître et alimenter à l'hydrogène. De tous les éléments chimiques, l'hydrogène est le plus léger. C'est également l'élément chimique le plus abondant dans l'univers. Sur Terre, il est rarement présent à l'état pur, mais il entre dans la composition de l'eau et des hydrocarbures. Et c'est là la grosse difficulté, puisque pour l'instant, on l'extrait des hydrocarbures et que sa source est donc, pour l'instant, issue des fossiles. Avec le nouvel engouement pour l'hydrogène vert, vecteur énergétique indispensable à l'électricité pour sortir justement des énergies fossiles, les regards se portent sur le Mali. Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est le seul pays connu jusqu'à peu à disposer d'un puits d'hydrogène naturel de 1500 mètres cubes jour, pur, à 96%, que des riverains utilisent quelques heures pour produire de l'électricité. L'idée n'était pas de l'exploiter à grande échelle, mais de comprendre les mécanismes géologiques et physiques à l'origine de cette réserve, pour savoir s'il se produisait ailleurs. Et ce serait le cas notamment en Russie, en Australie, aux États-Unis, au Brésil, en Turquie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Calédonie et bien sûr en France. Puisqu'en France, une économie de l'énergie est en train d'émerger. En août dernier, Agnès Pannier-Runacher a confirmé une enveloppe de 4 milliards d'euros supplémentaires, donc soit une enveloppe totale de 7,7 milliards d'euros, pour la filière hydrogène à bas carbone. Le Grand Est se positionne fortement depuis l'annonce d'un formidable gisement naturel. Et depuis 10 ans, des travaux sont menés pour utiliser davantage l'hydrogène, pour l'instant trop carboné et trop cher à produire, comme on le fait à partir des fossiles. Mais nous reviendrons sur ce gaz gris, vert, bleu et blanc. Bien sûr, nous allons reparler des bassines. Les bassines ont beaucoup fait parler d'elles, d'autant que la manifestation contre celle de Sainte-Soline avait été durement réprimée, ce qui a fait dire aux écologistes que le pouvoir, en termes de répression, eh bien, fonctionne à deux vitesses. Et comme pouvait le dire Yannick Jadot, si les écolos en avaient fait deux fois moins que les agriculteurs, ils auraient déjà été en prison. L'agriculture en France est à l'origine de 58% de la consommation nationale de l'eau pour irriguer les cultures ou abreuver les bêtes. 58% de la consommation. La construction de réserves d'eau supplémentaires pour faire face aux dérèglements climatiques fait donc partie des revendications soulevées des manifestations agricoles et donc désire passer au-delà de ces 58%. Qualifiées de réserves de substitution par leurs promoteurs ou de méga-bassines par leurs détracteurs, ces grands réservoirs remplis par pompage dans les nappes phréatiques sont au cœur d'un conflit d'usage. Ils continuent de susciter de la colère. Ces maxi-réserves d'eau de 10 hectares en moyenne, enclavées dans un pourtour de digue de 10 mètres de haut, sont censées se remplir en hiver ou, à défaut, sont alimentées par une eau de substitution qui émane d'un forage des nappes phréatiques à 70% financé par l'argent public. Donc, tout cela nous concerne. Le ministre de l'Agriculture a affiché sa volonté d'en accélérer les constructions en présentant un fonds de 20 millions d'euros destiné à améliorer le stockage et l'efficacité de l'irrigation. Des économies d'eau doivent être réalisées à l'hectare dans le domaine agricole, en investissant notamment dans du matériel d'irrigation le plus efficient possible ou en faisant évoluer des assolements, selon une note de l'administration. Et l'objectif est d'irriguer davantage de surface à consommation constante en eau. Mais quid des bassines ? Quelques propositions pendant la crise agricole ont été faites pour poursuivre le débat. Et ainsi, on a oublié de répondre à la demande des agriculteurs biologiques qui demandaient à ce que la rémunération des services environnementaux soit augmentée. Quel que soit le modèle de production choisi aujourd'hui, intensif ou vertueux, le revenu des agriculteurs continue de se dégrader. Or, l'agriculture biologique n'échappe pas à cette situation. Et que ce soit pour des raisons de protection de l'eau, de respect du bien-être animal ou de respect de la biodiversité, les collectivités, la recherche, les pouvoirs publics, les citoyens reconnaissent tous les apports du modèle de production biologique. Certains subissent la norme et en bio, la norme est dépassée pour produire dans le respect de la nature. et pourtant personne ne veut payer ou ne paye aujourd'hui pour ses services rendus. En 2017, le gouvernement a décidé de supprimer l'aide au maintien, qui était la seule rémunération des services rendus par les agriculteurs biologiques. Entre la précédente PAC et la nouvelle PAC, ils sont passés de 202 euros d'aide environnementale moyenne par hectare et par an à 92 euros, alors que la société veut plus de verdissement. Finalement, la société veut plus de vernissement, mais on rémunère encore moins qu'avant les agriculteurs pour le faire. Autre nouvelle que vous n'avez sans doute cette fois pas du tout entendue dans les grands médias. Les défenseurs de l'environnement font l'objet d'une répression sévère en Grande-Bretagne, a dénoncé mardi un expert de l'ONU qui déplorait que des manifestants pacifiques soient condamnés à de longues peines d'emprisonnement alors qu'ils défendent l'intérêt général. Michel Forst, qui est rapporteur spécial sur la protection des défenseurs de l'environnement et qui a été nommé par les États parties à la Convention d'Aarhus, vous savez, cette convention qui, normalement, nous donne accès à l'information et à la liberté d'expression, a déclaré avoir reçu des informations extrêmement inquiétantes lors d'une récente visite en Grande-Bretagne concernant une répression de plus en plus sévère. L'année dernière, la police britannique a reçu des pouvoirs accru et controversé pour réprimer ces manifestations après plusieurs années de manifestations perturbatrices organisées par des défenseurs de l'environnement. M. Forst a déclaré que les manifestants pacifiques pouvaient être condamnés pour trouble à l'ordre public à des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le mois dernier, un manifestant pacifique en faveur du climat qui avait participé à une marche lente d'environ 30 minutes sur une voie publique a été condamné à 6 mois de prison. Certains militants ont également été contraints de porter des bracelets électroniques ou des traceurs GPS. Il est impératif que les défenseurs de l'environnement soient protégés, a souligné M. Forst. Nous sommes au cœur d'une triple crise planétaire. Le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. Les défenseurs de l'environnement agissent dans l'intérêt de tous. Agréable, parlons de la vague mythique de Tiupou en Polynésie. Je ne prononce peut-être pas suffisamment bien à la polynésienne. Mais c'est une des 8 vagues les plus dangereuses du monde. Et Tiupou se situe, qui est donc en Polynésie française, à Tahiti plus précisément, se traduit et sera un des spots des JO pour la défense du surf. Elle se traduit par « mur de crâne » en référence à la bataille qui a eu lieu entre les clans de cette partie de l'île. Et bien sûr, c'est un lieu où l'on mourait. Ce spot est mondialement connu pour ses vagues incroyables, mesurant en moyenne 10 mètres de hauteur. Ces vagues ont la particularité de se former extrêmement vite et de déferler tout aussi rapidement. Ce sont sûrement les vagues les plus épaisses, les plus larges du monde. Le fond marin est très dangereux. Il s'agit d'un récif corallien. L'océan qui approche le récif est vraiment profond, mais le récif lui-même ne l'est pas. Et quand il y a de la houle, l'eau se retire avant de se redéposer rapidement sur le récif. La houle venant de l'océan vient donc brutalement se heurter contre la barrière de corail très escarpée afin de créer cette vague gigantesque. Le problème est que le récif qui se trouve à quelques dizaines de centimètres en dessous de la vague, et donc les chutes qui peuvent se produire, peuvent avoir de graves conséquences et peuvent même entraîner la mort. Chaque année, Tiupou accueille une compétition de la World Surf League appelée Billabong Pro Tahiti. Ce sera donc un de nos spots pour les JO. Thank you. On s'inquiète, mais peut-être aura-t-on la réponse d'ici la fin de cette semaine. Que reste-t-il de la volonté de planification écologique qui avait été confiée à Elisabeth Borne ? Gabriel Attal a relancé une écologie à la française, dit-il, qui serait accessible et juste. Une intention qui avait déjà été formulée par Emmanuel Macron, mais on manque de précision et on reste dans l'attente. La planification écologique devait conduire à un texte qui devait être à l'origine une loi de programmation sur l'énergie et le climat, supposant une centralité de l'enjeu dans les décisions gouvernementales. C'est-à-dire qu'en principe, on devait associer l'ensemble des ministères de l'industrie, de l'agriculture, des transports, etc., de la culture, à cette programmation sur l'énergie et le climat. Et ça ne pouvait donc se faire, cette planification transversale, que sous l'égide d'un plan qui aurait été donc proposé à chacun d'entre eux. Mais il reste à poser la base scientifique de ce modèle, un modèle industriel à la fois sobre en ressources, résilient, décarboné, alors qu'il devait bénéficier de plusieurs milliards d'euros d'investissement. Et si un autre monde est possible, il faut le penser hors du cadre économique classique. On n'en est pas là. On est parti pour lutter contre la capture accidentelle de dauphins. Et ça ne fait pas plaisir. L'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne est effective depuis lundi 22 janvier. Elle aura cours pendant un mois, jusqu'au 20 février. Cette décision du Conseil d'État cloue à quai 450 navires français qui avaient relevé dans leur filet des dauphins et en avaient causé la mort. Les pêcheurs qui sont concernés seront indemnisés autour de 80-85% de leur chiffre d'affaires. Mais ce mois d'arrêt inquiète. Il inquiète sur l'avenir de la filière. Il impacte économiquement toute la chaîne, de la pêche au mariage. Et on se doute bien que la colère gronde. Mais comment faire? Il est certain aussi qu'il faut protéger ces dauphins. Le maire de la Grande Motte a accordé la semaine dernière une interview à la Gazette. Une nouvelle fois, il s'en prend aux écolos, qui selon lui, auraient à l'époque empêché la création de sa ville. Alors que justement, ce sont les lois environnementales qui ont permis la création de cette ville, gagnée sur la mer, et qui la protègent. Précisons d'ailleurs à ce sujet que la Grande Motte n'existe pas seulement du fait de Jean Balladur. Il en fut certes l'architecte génial, mais c'est surtout à Pierre Racine que l'on doit la création de l'emprise terrestre et portuaire sur lesquelles verra le jour la future ville. C'est lui, Pierre Racine, qui a imaginé un apport de terre suffisant pour pouvoir planter et construire. L'étang du Ponant et le port ont été creusés afin de rehausser le niveau du sol d'au moins 2 mètres au-dessus de la mer et ainsi de pouvoir ériger la station. Mieux, la mission Racine, du nom de son président, a asséché et aménagé les 180 km de côte entre le Gros du Roi et le Cap dans l'Aude. Alors bien sûr, la Grande Motte est une de ces 6 unités touristiques voulues par lui et très bétonnées. Mais entre les unités touristiques, l'État, via la DATAR, c'est-à-dire la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, a déclaré le littoral inconstructible. Il a encouragé la création de zones protégées. Et c'est grâce à cette protection réglementaire que les alentours de la Grande Motte restent inconstructibles. Aujourd'hui, les associations Grand Montois se sont élevées contre un projet d'extension du port et de la construction de logements, avec succès. Mais alors que le maire lorgnait sur le vigne de la plage, accusant une nouvelle fois l'écologie de lui barrer la route, Ce sont les protections, comme la loi Ramsar ou Natura 2000, qui protègent en fait cette plage du Grand et du Petit Travers. Certes, il faut reconnaître que la population n'est pas suffisamment consciente du risque d'inondation et de montée des eaux, dont les effets pourraient se faire sentir dès 2050 et que des actions concrètes devraient être mises en place pour les aider, pour aider les populations vulnérables à s'adapter à cet inévitable grignotage de nos terres par la mer. Au revoir à tous et merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que nous faisions aujourd'hui un peu une première puisqu'il s'agissait de revoir les news du mois de janvier et du mois de février, enfin de ce début février, et que nous y reviendrons donc une fois par mois. Nous essaierons et nous tenterons d'en faire une petite analyse. La semaine prochaine, on se retrouve pour Nous n'avons qu'une terre, selon les conditions habituelles. Nous y parlerons des envahissantes, les envahissantes terrestres. Une émission suivante aura lieu sur les envahissantes marines. Mais la semaine prochaine, donc, d'abord, nous verrons que ce mot d'envahissante est un peu violent et qu'il a traduit d'une manière un peu erronée le mot invasive qu'utilisaient les anglo-saxons et que, en fait, l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, appelle les deux EE. Les trois œufs. Voilà, donc à bientôt et à la semaine prochaine pour parler eh bien, du mimosa, par exemple.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.